Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, retour dans les studios après hier l'émission spéciale en mairie de Laval. Retour dans les studios pour cette émission. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 novembre et nous allons justement parler de récup en tout cas avec l'événement organisé à Évron par le Centre Social et par l'APSC 53. Plein d'astuces et d'acteurs en tout cas regroupés justement pour donner une seconde vie aux objets dont on ne se sert plus. Et puis on va aussi justement revenir sur l'un des acteurs de la journée hier internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Citadelle, un lieu d'accueil de jour pour ces femmes victimes de ces violences, avec le témoignage justement de certaines de ces femmes qui ont bien voulu courageusement témoigner à notre micro, que vous entendrez. Et en fin d'émission, pour le coup, là, deux chroniques aujourd'hui, oui, deux chroniques pour le prix d'un, là aussi, vous êtes chanceux cette semaine, avec une chronique cinéma proposée par Audrey Bénès d'Atmosphère 53 et une chronique sport proposée par Steven qui sera bientôt avec nous en studio. Et tout d'abord, on va faire un petit point sur l'actualité avec une troisième dose de vaccin qui sera accessible dès demain pour tous les adultes, 5 mois après leur deuxième injection. Annonce faite hier par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le test PCR a été présenté par les non-vaccinés, devrait être daté de moins de 24 heures. Et pour les vaccinés, le pass, lui, sera conditionné à cette troisième dose. Dès aujourd'hui, n'oubliez pas de remettre votre masque dans tous les établissements recevant du public. En Mayenne, 2 fois plus de bronchiolites aux urgences. Même si le département n'est pas concerné par les cas de grippe pour l'instant, les cas de bronchiolites, eux, se multiplient. Ils ont même doublé en un mois, ce qui représente 3125 cas pour 10 000 passages aux urgences en Mayenne. Pour s'en prémunir, il faut adopter les gestes barrières, limiter les visites au cercle des adultes très proches et éviter bien sûr avec son bébé les lieux où les virus circulent beaucoup. Les sages-femmes à nouveau mobilisées ce midi devant l'hôpital de Laval. Elles sont en grève symboliquement tout ce week-end pour protester contre leurs conditions de travail. Elles demandent une revalorisation de leur statut, un statut encore paramédical, et dénoncent un manque criant de personnel. L'actuel 3, le bateau, a terminé cette nuit la transat Jacques Vabre. Le bateau mayennais d'Yves Leblévesque et Anthony Marchand est arrivé en 4e position en Martinique hier dans la nuit, donc vers 23h45, après 18 jours, 10 heures et 19 minutes de course. Chez les IMOCA, Fabrice Amedeo et Loïs Bérard se hissent à la 10e place du classement provisoire, à 662 000 nautiques de l'arrivée. 136 babouins du refuge de l'Arche ont été stérilisés. Une opération menée la semaine dernière à Château-Gontier avec plus de 46 spécialistes, des vétérinaires, des éthologues, des anesthésistes ou bien des soigneurs animaliers. C'est une première en France. J-1 avant le lancement des Lumières de Laval. L'événement revient à partir de 18h45 demain soir sur le thème de l'art naïf et de la jungle luxuriante. Attention, quelques changements pour les automobilistes. À partir de 17h demain et jusqu'au 2 janvier, il sera impossible de se rendre en voiture ou en moto dans le centre-ville. Deux solutions, un grand parking installé au complexe sportif Jean Massé ou bien la navette bus gratuite à partir des 5 grands parkings à l'extérieur de Laval. Et si vous faisiez plus de récup? C'est ce que vous propose le centre social Le Trait d'Union à Évron et l'APES 53, l'association de promotion de l'économie sociale et solidaire, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets qui se poursuit jusqu'à dimanche, a été organisé tout un programme appelé Fête de la récup, avec une disco soupe, des ateliers furoshiki, pour remplacer les papiers cadeaux, une bourse aux vêtements et même un atelier réparation de vélo, ça c'était hier. Sans oublier un petit forum des acteurs du réemploi présenté par Anne-Lise Bélier, chargée de mission à l'APES 53.
L'objectif, en fait, elle était initiée donc par l'APES 53 et c'était en lien avec Alternatri, Ethic 53 et Emmaüs d'organiser un événement en partenariat qui tournait autour de l'économie circulaire et qui permettait de valoriser les acteurs sur la Mayenne. Et donc un événement tournant d'année en année sur plusieurs lieux. C'est la première année étant sur Évron, la deuxième année probablement chez Emmaüs, de valoriser les acteurs comme ça a déjà été fait et de continuer cette dynamique. Alors, des acteurs de l'économie circulaire, donc vous pouvez trouver par exemple Emmaüs, Collectif Fair, Envie, Seconde Vie, il y a pas mal de structures différentes et sur plusieurs thèmes différents, et puis des réparateurs également qui sont présents, donc plutôt du Nord Mayenne. On a également par exemple Atelier Mayenne qui est un établi partagé du Sud Mayenne, c'est assez divers.
Bonjour, alors je suis Solène Leminou de la Chambre des métiers de l'artisanat de Mayenne et je suis en charge de l'animation du réseau Réparateur, qui est un réseau des artisans de la réparation réparation nationale. Les réparateurs sont les artisans donc, de la réparation. Ça peut être des couturières, des couturiers, comme des remouleurs, des couteliers, des réparateurs d'électroménager, de vannerie, de bijoux, de relooking de meubles. Enfin, c'est tout un panel d'artisans qui travaillent à la réparation et au prolongement de la durée de vie des objets. L'idée, c'est de valoriser ce réseau en fait, auprès du grand public. On a un site qui s'appelle www.annuaire-réparation.fr où vous pouvez en fait vous localiser, choisir votre besoin en termes de réparation et ensuite pouvoir contacter l'artisan qu'il vous faut pour prolonger justement la durée de vie de vos objets. En Mayenne, on a environ 130 artisans labellisés. Il y a plus d'artisans de la réparation et l'idée c'est de les intégrer dans ce réseau pour justement faire la promotion.
Et il reste encore un atelier proposé cet après-midi dans le cadre de l'événement Fête de la Récup. Il s'agit d'un atelier de sensibilisation aux produits chimiques et fabrication de produits naturels. C'est proposé de 14h à 16h au Grenier d'Éthique à Évron avec le CPIE Mayenne-Bamen. On va parler justement de la Citadelle, donc un refuge pour les femmes victimes de violences conjugales. Ce sera juste après avoir écouté Anderson .Paak avec King James. We'll be right back. Anderson .Paak avec King James dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et on va poursuivre un petit peu la thématique de notre émission spéciale hier avec ce refuge des femmes victimes de violences sur Laval, Citadelle. C'est un lieu d'accueil de jour pour les femmes victimes, donc je l'ai dit, de violences conjugales et intrafamiliales, avec un objectif, aider ces femmes à se reconstruire. À l'occasion hier de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Citadelle a organisé une lecture publique à 6 voix, lecture d'un texte décrivant cette situation de violence selon différents points de vue. Texte très touchant et qui a permis aussi de mettre en valeur les témoignages de ces femmes et l'action de l'association.
Mais alors, je ne comprends plus. Qui, selon vous, est en danger? Vous craignez que...
Un jour, il s'en prenne à votre fils?
Ou que votre fils se retrouve...
Enfin,
je ne... Vous voulez parler de...
La possibilité?
Je vous ai bien comprise. Avez-vous besoin de protection? Je peux vous donner le nom d'association?
Non, ne regrettez pas votre démarche.
Je vous écoute.
Quel est le degré de violence?
Des humiliations? Des coups?
Des coups qui ont laissé des traces sur votre corps?
Il me faut quelques informations.
Plus vous serez précise et plus... Votre témoignage aura de la valeur.
Si. Non, je ne dis pas que cela ira plus loin. C'est vous qui décidez.
Alexandra Peigné, éducatrice à la Citadelle, donc le dispositif départemental pour les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. C'est un projet qui a été construit donc avec Dany Porcher. On devait le réaliser il y a 2 ans, mais avec toute la période sanitaire critique, nous avons reporté et on a pu le concrétiser aujourd'hui avec Cindy, avec Anaïs, avec d'autres personnes qui se sont joints au projet.
Dany Porcher, voilà, je fais partie de l'association Hamlet, association mayennaise de liaison école-théâtre. Alors j'ai découvert ce texte, Les Roses Blanches de Sarah Pépé, il y a 2 ans, parce que l'association Hamlet organise depuis maintenant 6 ans dans le département de la Mayenne, en direction des écoles, des collèges et des lycées, un concours qui s'appelle Les Jeunes lisent du théâtre. Et il se trouve que ce texte de Sarah Pépé était dans la compétition, si je puis dire, l'an dernier. C'est un texte magnifique qui a aussi beaucoup plu aux adolescents parce que, en fait, la violence conjugale est vue aussi à travers les yeux de l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que les points de vue, chaque scène correspond à un point de vue différent. Il y a les parents de la femme, il y a les voisins, il y a la maîtresse d'école. Enfin, et c'est très riche, finalement, on s'aperçoit que beaucoup ne voient pas. Mais par contre, que l'enfant qui est au cœur de la cellule familiale, lui, voit. Et ce qui est fort aussi dans ce texte, c'est que petit à petit, l'enfant va devenir grand et qu'on va s'apercevoir qu'il va lui-même être tenté, entre guillemets, de recommencer l'horreur et qu'il va tout faire pour s'en libérer. Donc c'est un texte magnifique et très très bien écrit. Et voilà pourquoi je l'ai proposé à la Citadelle.
Quand vous l'avez proposé, il y avait déjà cette idée de le faire à plusieurs voix, en tout cas de le faire résonner comme ça, parce que ça lui donne encore une autre dimension, je pense.
Alors oui, c'est un travail qu'on mène avec les élèves, d'ailleurs, cette lecture à haute voix chorale avec pupitre. Le pupitre est un outil très intéressant pour se tenir debout et parler à un public. Et en plus, le fait d'être en chœur était très intéressant parce que voilà, c'est un chœur de femme qui prend la parole. Je pense que ce n'est pas conçu comme tel par l'autrice, mais que c'est nous qui avons... je l'ai proposé à l'ensemble des femmes pour que ce texte ait encore plus une portée universelle, on va dire. Parce qu'hélas, tant de femmes sont touchées par ce problème.
On a monté avec Dany un projet autour du théâtre. Donc déjà, on avait créé un groupe au travers la Citadelle pour retrouver confiance, être dans la reconstruction psychologique. Et donc, quand on a pu concrétiser cette lecture pupitre, on a proposé aux femmes du coup qu'on accompagne et elles ont répondu favorablement et on a été hyper hyper contentes de voir qu'il y avait eu pas mal de femmes qui ont voulu participer, que c'était important et le texte venait aussi toucher. C'était important aussi qu'on donne le texte avant en lecture pour pouvoir qu'elles s'imprègnent aussi. Toutes ont pu dire qu'il y avait des ressentis, il y avait vraiment une réalité. Elle a été, cette autrice est très, très juste dans tout ce qu'elle, dans toutes les démarches, tout ce qui est engagé. Et on s'est dit aussi avec Dany, c'était important de lire ces 10 premières scènes parce qu'il y avait quelque chose qui était fort en termes de les points de vue différents. Et tout de suite, du coup, saisir les spectateurs qui nous écoutent et de se dire que là, le propos, il est en train de se décliner et on voit vraiment plusieurs étapes dans les violences conjugales. Et là, c'est réellement ce qu'on a voulu aussi démontrer.
Cindy Ficard, maman d'un petit garçon de 4 ans. J'ai subi aussi des violences conjugales de la part du papa de mon fils. C'était important d'une part parce qu'il faut en parler, parce que souvent on a peur d'en parler à cause des représailles. Moi j'estime que c'est important d'en parler et que la justice puisse agir par rapport à tout ça en fait. Parce que nous on subit, mais nos enfants subissent aussi malgré tout. Parce que mon fils vit actuellement la situation et aujourd'hui son papa m'a fait du mal, mais lui a fait du mal aussi à lui, donc... Il faut que la justice puisse entendre tout ça, en fait. Je ne connaissais pas du tout, en fait. Je me suis séparée en avril 2019 du papa de mon fils. Et en fait, quand je me suis séparée, c'est une assistante sociale qui m'a conseillé d'aller à la Citadelle. Donc, je les ai appelés, j'ai pris rendez-vous et c'est de là que je les ai connus, en fait. Mais sinon, je ne savais pas qu'il y avait des dispositifs qui étaient faits justement pour nous, en fait. Ça m'a beaucoup apporté dans le sens où on a quand même, généralement, quand on part seul avec notre enfant. Et du coup, c'est un soutien qu'on a, en fait. Parce que quand on part comme ça du jour au lendemain, on est perdu, on ne sait même pas où on va atterrir. Enfin, dans nos têtes, c'est brouillé. Donc moi, je sais qu'ils ont beaucoup été là pour moi et je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et mon fils. Simplement avec une phrase de son père qui m'a dit, un jour il est venu à la maison, il avait bu. Et il m'a dit, profite bien de ta dernière soirée, c'est la dernière que tu passes avec ton fils. Et avant qu'il me dise cette phrase, il me l'avait enlevée pendant toute une après-midi. J'avais pas eu le droit de le voir, pas eu le droit de savoir ce qu'il faisait. Quand il me l'a ramené, c'est là qu'il m'a dit cette phrase et c'est de là que j'ai dit « faut que je m'en aille ». J'ai appelé les gendarmes et ils sont venus me chercher en fait. Et ils m'ont mis à l'abri chez une amie et après, la semaine qui a suivi, j'ai été accompagnée de la Citadelle. Donc ils ont un local spécialement pour les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Et du coup, ils m'ont orientée là-bas pour ma protection. Quand on vit ça, on se dit, on est tout seul en fait. On a l'impression que nos voisins, tout va bien, que tout le monde vit sa meilleure vie. Et au final, quand on rentre à la Citadelle et qu'on voit toutes ces femmes, on se dit, on n'est pas toute seule en fait. Il n'y a pas que nous. Et c'est de là qu'on commence plus à réaliser en fait.
Anaïs Vaillant, j'ai également subi des violences conjugales de la part de mon ex-conjoint et du coup le père de mon enfant. J'avais pas connaissance de la Citadelle. Au début, j'ai parlé de ma situation petit à petit en fait, à mon médecin traitant qui m'a orientée au bout d'un moment vers la Citadelle. Depuis, ça a été progressivement et ça s'est dégradé à la naissance de mon fils. Et du coup, j'ai pris contact avec la Citadelle avant mon départ pour préparer mon départ et essayer de m'organiser au mieux. Et la Citadelle a été, c'est vraiment un soutien. Ils nous font prendre conscience aussi de ce qu'on vit, parce qu'on est un petit peu dans le déni et on ne veut pas croire ce qui se passe, en fait. Donc du coup, déjà, on réalise. Et après, la Citadelle nous aide énormément aussi dans les démarches. Ils nous soutiennent vraiment, ils nous orientent vers les différents professionnels qui peuvent nous aider dans nos démarches. En fait. Ça m'a permis de me sortir, clairement. Mon médecin traitant et la Citadelle m'ont clairement permis de me sortir de cette situation. Je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui si je n'avais pas eu ces professionnels, en fait. C'est important pour moi, en fait, oui, d'avoir participé aujourd'hui, déjà pour montrer que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a des dispositifs qui existent, que les femmes qui sont victimes, il ne faut pas qu'elles hésitent en fait, à frapper aux portes de ces associations, parce qu'on n'en parle pas assez. Et quand on vit une situation de violence, on se sent vraiment seul, parce qu'en général, l'entourage ne voit rien. Les amis, la famille, tout le monde le voit comme un petit peu l'homme parfait, en fait, et le visage est complètement changé quand on est avec du monde, quoi. Moi, il n'y avait que mon médecin traitant qui avait remarqué. Il n'y a vraiment que les professionnels qui avaient remarqué qu'il y avait quelque chose de pas normal, en fait. Non, puis on a honte, en fait. On a honte aussi de la situation. On a peur de ne pas être comprise. On a peur aussi de la suite, peur des représailles. Parce que moi, il m'avait menacé que si j'en parlais. Enfin, voilà. Donc on a peur aussi des représailles du conjoint, en fait. Et encore plus quand il y a les enfants. Mais il ne faut pas que cette peur, en fait, il vaut mieux partir, en fait, avant qu'il soit trop tard. Dès les premiers signaux, il faut partir, en fait, avant que ça monte crescendo, quoi.
On a vu que ça a été important dans les parcours d'Anaïs et de Cindy. Comment c'est organisé? Qu'est-ce que vous proposez en tant que tel?
Alors, on a donc un dispositif, c'est un dispositif départemental, un accueil de jour. Donc, on propose du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sans interruption. Donc, ça peut être soit par téléphone, soit du coup en rendez-vous. On a, donc, comme le disaient très bien Cindy et Anaïs, on est là à chaque moment, chaque étape de leur parcours. On ne sera jamais dans un jugement ou à surtout amener la personne à se justifier. Au contraire, dans ce lieu-là, elles n'ont pas à se justifier. À chaque moment, à chaque étape de leur parcours, on a plusieurs solutions à leur proposer. Et ensuite, du coup, c'est vraiment elles, quand elles sont prêtes, quand elles décident, on est là. Donc à tout moment, comme je disais, donc ça veut dire une mise à l'abri. Donc comme disait très bien Anaïs, on prépare ensemble le départ. Ça, c'est très important. Donc s'il y a besoin d'une mise à l'abri, on a le service, les services, du coup, comme le disait très bien Cindy, le local et la parenthèse. Donc deux lieux où on a 7 places d'urgence actuellement. Qui dépend donc de l'association Revive, mais tenue, donc c'est nous qui orientons la citadelle. Et donc du coup, on met donc à l'abri les personnes. Ensuite, du coup, on est sur le volet de reconstruction psychologique. Donc là, on propose des ateliers, parce que là, la phase de reconstruction, elle est hyper importante. Et souvent, certaines femmes peuvent nous dire « Mais est-ce que vous savez quand? Quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas appuyer sur ce bouton et oublier tout ce qui s'est passé ?» Et en fait, non, il n'y a pas, surtout que cette étape-là. Alors l'étape de partir du domicile, elle est très importante et elle est très dure. L'étape de reconstruction psychologique, elle peut prendre du temps. Et c'est là que du coup, nous, on sera toujours là et on leur dit qu'elles ne sont pas seules, parce qu'on est là justement pour les écouter, les soutenir à tout moment de leur parcours. Moi, je tenais aussi à rajouter qu'il ne faut pas brusquer. Comme je disais, c'est important d'aller à chaque étape de leur parcours, parce que quand on sort du parcours de violence conjugale, il ne faut pas brusquer, parce que sinon on peut faire l'effet inverse. Donc du coup, on va y aller vraiment par étapes, et surtout qu'elles aient leur propre déclic. Comme le disait très bien tout à l'heure Cindy, elle a eu son déclic. Anaïs a eu son déclic. Chaque femme a son déclic. Et c'est important du coup de le prendre en compte et de se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas seul et qu'il y a des associations. Et la Citadelle ne travaille jamais seule. On travaille donc avec un ensemble de partenaires. Et c'est hyper important. Certains nous envoient des situations. On travaille ensemble pour justement lutter. Plus on en parle, plus on enlève ce tabou et plus on peut peut-être éviter ou soulager certaines personnes ou peut-être aider à sortir du coup de cette situation. En tout cas, on est là et c'est important. Du coup, on a donc un appel téléphonique, donc comme je disais, donc tous les jours. Et après 17h, c'est nos collègues du 115 qui prennent le relais. Mais en tout cas, la citadelle n'est jamais fermée, à part le week-end et les jours fériés. S'il y a une mise à l'abri à faire dans l'urgence, on répondra jamais non. On mettra toujours à l'abri la personne. On a un groupe de parole avec un psychologue extérieur qui est très important, hein, comme atelier. On a la socio-esthétique. Où on a Amandine qui vient, c'est des ateliers mensuels, où là, du coup, les personnes s'inscrivent. On a la Gaëtane qui fait un atelier sophrologie, qui marche aussi très très bien. On a du coup l'accès à la culture, où là, on a mis en place du coup un partenariat avec le Théâtre de Laval, pour, du coup, là, c'est les femmes, c'est un petit groupe de femmes où elles sont ouvreuses. Et là, donc, elles participent, du coup, à la vie culturelle, du coup, de la ville. Et ça permet en même temps, du coup, de se sentir, de se mettre dans une autre position aussi, du coup, de sortir de cette situation et surtout d'être ensemble, comme a pu le dire Cindy et Anaïs, le fait de se retrouver en groupe, de se dire on n'est pas seul à avoir vécu ça permet de se soutenir et ça permet d'avancer. Parce que des fois, dans ces situations-là, on se dit, on se sent tellement seul, tellement démuni qu'on ne sait pas par où commencer. Et là, c'est important, du coup, nous, on est là pour, du coup, donner des... On est une valeur ajoutée pour aider à avancer, à faire émerger tout ça et qu'elles se reconstruisent.
Si vous voulez contacter Citadelle, vous pouvez appeler 7 jours sur 7 le 02 43 56 95 94. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter ce numéro, évidemment l'émission sera en podcast sur l'autreradio.fr. On rappelle d'autres numéros d'urgence nationaux, le 3919, la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, et le 17, police secours. On fait une petite pause en musique et on revient tout de suite après avec notre chronique sport.
Don't stop wasting the lives of the brave based on a lie. Who will stop wasting the forests and seas? We know what will survive. Who will stop wasting the time? Who will stop putting quarters upon our eyes? Who will not place himself higher than we for a senator's prize? We wander from the numbers and say something ain't right. Who could disrupt the abundance and pray not for weight but for light? How could we risk the empire as the apprentice descends into seasons of vital, when an old white Lincoln encrypted and high sputters down from the sky, red-eyed in July, weeping glycol? We shout out, but listening in, we rouse our own episodes.
That's a lifestyle.
'Cause the monster eats its young till they're gone, gone, gone. And the rules are there to hurt, and that's the way it's done. And the monster eats its young till they're gone, gone, gone. Till it's satisfied. Dips out from the haze, who knows the price? When the words mercy and justice are raised, members only apply. When will we count all the signs? When will we finally not let fear weaponize? When will the courage to breathe and let breathe assure the land will survive? 'Cause the monster eats its young till they're gone, gone, gone. And the rules are there to hurt, and that's the way it's done. Yeah, the monster eats its young till they're gone, gone, gone. Till it's satisfied and done, it moves blood.
That's a lifestyle.
Dirty Projectors dans l'agité du local. That's a lifestyle, ça c'était le titre de ce que vous venez d'entendre. Et tout de suite, comme promis, on passe bien sûr à notre chronique sport. Chronique sport qui aujourd'hui, eh oui, changement, n'est pas enregistré. Steven est avec nous en studio. Bonjour Steven.
Bonjour Marie.
Et on va parler aujourd'hui de préparation mentale dans le sport, mais pas que.
Alors oui, la préparation mentale, on va dire thématique un peu innovatrice et parfois qui fait peur. Hein. La prépa mentale, justement, est utilisée dans le sport avec des objectifs, dans le sport d'ailleurs, et pas que, puisqu'aujourd'hui, on a aussi des chefs d'entreprise qui, justement, font appel au préparateur mental. Donc l'objectif, un petit peu, c'est d'accomplir des performances ou d'améliorer des capacités physiques et mentales, justement, pour répondre à un objectif ou à des réussites. Elle vise justement à renforcer, on va dire, ce qu'on appelle le mental, parce qu'aujourd'hui on l'appelle comme ça, même si quand on parle de mental, ça peut faire peur, dans le but justement d'optimiser le potentiel d'une personne ou d'un groupe, puisqu'on peut aussi très bien travailler sur l'individuel ou sur le collectif, à des buts bien définis, puisqu'aujourd'hui dans la société on parle surtout de résultats et on veut chercher justement à être, on va dire, les meilleurs ou du moins avoir les meilleurs résultats. Donc on sert surtout à ça, à accompagner l'individu ou un collectif à réussir cet objectif.
Donc ça c'était pour bien comprendre un peu ce que c'était que cette préparation mentale. Mais là, Steven, plus précisément, de quelle manière est-ce qu'on peut intervenir avec cette préparation mentale ?
Alors la préparation mentale, c'est, on va dire, une grande famille, justement, derrière, définie par des différentes thématiques. Donc là, je vais essayer de vous parler un peu de quatre grandes clés très importantes. Donc la préparation mentale peut justement intervenir sur la gestion du stress, que ce soit au quotidien, sur un moment T. Le stress, justement, c'est une réaction qui est tout simplement normale, c'est humain. Donc c'est quand l'organisme, enfin l'individu se retrouve en situation peut-être oppressante. Ça peut, si on reparle le sport, ça peut être une défense assez haute, assez oppressante. Et là, il faut permettre justement à l'individu d'analyser et de gérer ses émotions pour faire face justement à ces difficultés. Donc un sportif justement qui est mis sous pression ou par exemple un environnement. Gérer un environnement, aujourd'hui, on sait que c'est difficile, il y a de plus en plus d'incivilité. Si on prend l'exemple du tennis, avec un stade avec 10 000 spectateurs, par exemple, il faut être capable de gérer ses émotions et de faire abstraction. Et donc, on va tout simplement mettre en place ce qu'on appelle une routine. C'est une routine, comme par exemple Rafael Nadal, qui est le champion espagnol connu mondialement, qui lui utilise une routine de concentration. Après justement chaque service, on va dire que voilà, il se tient les oreilles, il passe le nez et il serre. Mais c'est quelque chose qu'on appelle une routine qu'il fait sans arrêt et donc qui permet justement de gérer son stress et de rester concentré sur son plan, on va dire, tactique. Derrière, on a aussi, donc c'est en lien aussi avec la gestion de ses émotions ou des soucis personnels, parce qu'on sait très bien que les soucis personnels peuvent impacter justement chaque individu dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sportive. Et donc, l'idée, c'est de ressentir des émotions, c'est normal, c'est parfois envahissant, et donc ça peut justement entraver un petit peu les conditions physiques, mentales, et apporter une concentration qui est quand même assez délicate. Donc on va justement travailler sur des méthodes, on va dire, respiratoires, apporter une habitude justement cérébrale sur le plan tactique avec trois respirations, expiration, un souffler, tout ça. Et puis derrière, justement, créer un plan, on va dire, mental avec son coach. Derrière, on a aussi la troisième clé, l'amélioration de la confiance, qui est le grand point le plus important, c'est-à-dire c'est permettre, si on a quelqu'un qui est justement en déficience de confiance en soi, il va falloir justement remettre toutes les compétences physiques, techniques et même humaines que possède la personne. Ça va être de lui projeter justement ce qu'elle sait faire, donc c'est reconnaître, lui permettre de reconnaître ses compétences. Et donc là, il y a vraiment un travail d'entretien individuel, de suivi personnel, d'accompagnement de l'individu, parler humainement de sa vie personnelle, mais aussi de l'aider à trouver des solutions sur le côté sportif. Donc en fait, il faut être capable de remettre l'individu devant ses compétences et ses qualités pour lui permettre de retrouver sa confiance en soi. Et la dernière, on appelle ça la restructuration de pensée, c'est ce qu'on appelle le discours interne. C'est ce qu'on peut se dire, par exemple, je pars en tirant court, je loupe. C'est ce que je vais me dire moi, oh, je suis nul, je n'y arriverai pas. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est de prendre ces pensées négatives en pensées positives. Et donc en utilisant toujours pareil une routine, qui va influencer un peu le comportement. Ça peut être quand je sens que je commence à être négatif, c'est peut-être une tape sur la jambe. Ça peut être un mot, ça peut être réveille-toi, go. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait en amont, qu'on travaille, qu'on répète. Et puis après, une fois que le cerveau est adapté, reconnaît cette situation, c'est automatique. Donc voilà un petit peu les outils et la préparation mentale dans sa globalité. Donc la préparation mentale, elle intervient vraiment de manière globale. Donc là, on est vraiment, on survole le sujet, mais vous avez déjà quelques clés en main pour pouvoir essayer de vous entraîner avec vos différents sportifs. En tout cas, c'est quelque chose qui améliore la condition de vie et en général, et aussi améliore les performances, que ce soit au travail ou dans le monde du sport. Et donc j'invite tous les amateurs et amoureux du sport à suivre et à essayer d'aller chercher des choses intéressantes dans la préparation mentale.
Et là, en fait, tout ce que tu as pu dire, c'est aussi des choses qu'on peut soi-même tester ?
Oui, oui, il n'y a pas de souci. La gestion des émotions, ça passe aussi par toi, l'individu. Et donc être capable de travailler sur la respiration, calmer un peu le rythme cardiaque, penser à des choses un peu plus positives, c'est des choses qu'on fait. Nous, éducateurs, on est sans arrêt en perpétuel... On est dans ce système-là.
Fait appel à ça, de
voilà.
Toute façon.
Et donc, de toute façon, tout ce qui est émotion et stress, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Après, quand on commence à parler de confiance en soi, il faut quand même être entouré. Puisque se dire « ouais, j'ai confiance en moi », c'est une chose. Avoir un professionnel qui amène... ces outils qui t'accompagnent, c'est vraiment le plus important.
Ben merci beaucoup, Steven, en tout cas. Et on rappelle que tu sais très bien de quoi tu parles, puisque tu disais « nous, éducateurs oui. ». Évidemment, tu es formé sur cette question de la préparation mentale et tu es éducateur au sein du club du Sud Mayenne Basket. C'était juste une petite précision pour dire que, évidemment, cette chronique ne venait pas de
C'est
de
un sujet que je connais bien, puisque je suis préparateur mental. Donc
voilà, c'est ça, préparateur mental, donc d'autant plus spécialiste de ce sujet. Merci beaucoup, Steven. On te retrouvera donc vendredi prochain pour une nouvelle chronique sport. Et je voulais dit, aujourd'hui, il y a deux chroniques. La deuxième vous invite, après cette préparation mentale pour le sport, on va profiter des salles de cinéma avec la chronique coup de cœur d'Audrey Bénès d'Atmosphère 53.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous. Cette semaine cinématographique du 24 novembre 2021, Atmosphère 53, l'association de cinéma en Mayenne, vous propose un nouveau coup de cœur, c'est le film norvégien Julie en 12 chapitres. C'est un film de Joachim Trier, réalisateur norvégien extrêmement brillant et talentueux, qui nous avait offert des films magnifiques comme Oslo 31 août, Back Home ou encore Thelma. Ici, il revient cette année avec ce film, Julie en 12 chapitres, qu'on avait eu l'occasion de découvrir au Festival de Cannes cette année, en compétition officielle. Et c'est un portrait... très drôle et en même temps très émouvant d'une jeune trentenaire urbaine, créative qui s'appelle Julie et qui se construit, se cherche, doute beaucoup aussi, qui change de métier et de vocation très régulièrement, qui cherche l'amour, s'interroge sur tout un tas de choses, sur les relations humaines, sur le couple, sur la maternité, et on voit comment d'année en année qu'est-ce que c'est avoir être dans la trentaine et dans cette société là en effet, cette Julie, elle veut vivre très intensément, elle veut vivre vite et elle veut surtout ne pas sacrifier ses désirs. Et c'est vrai que le film est très subtil et très fin pour ça, parce qu'il interroge vraiment cet âge passionnant qu'est la trentaine. Et dans ce monde actuel où tout va vite, où les paradoxes sont nombreux et où les repères sont à réinventer aussi. Et donc l'institution du couple, la question de la maternité, le désir de vivre, l'amour, la peur de l'engagement, mais aussi la maladie. Et donc je l'ai dit, cette question de sacrifier ou non ses désirs et de pouvoir faire des compromis, toutes ces questions sont très finement abordées. Et c'est vraiment un portrait comme ça qui s'étire sur plusieurs années autour de ce personnage extrêmement flamboyant qu'est Julie. Elle est incarnée par Renate Reinsve, qui a évidemment reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour ce rôle-là. Et c'est un film vraiment qui offre une mise en scène, mais tout à fait remarquable, avec plein de trouvailles et d'idées merveilleuses voilà, est nouvelle et c'est assez créatif et innovant. Comme par exemple un moment où elle est dans la cuisine avec son compagnon et d'un coup il est en train de verser du café et d'un coup le temps se fige et elle se barre, elle court dans la ville. Et voilà, ça paraît tout simple comme ça, mais tel que c'est amené dans le film, c'est voilà, des idées de mise en scène comme ça qui, pour faire état de son doute et de son envie tellement intense de vivre, ce sont des trouvailles tout à fait merveilleuses. Alors c'est une comédie, voilà, vous l'avez compris, mélancolique, romantique et en même temps tout à fait existentielle qu'on vous propose pour cette semaine du 24 novembre. C'est un film vraiment très beau et très lumineux qu'on vous recommande très chaudement et qui est à découvrir dans les différents cinémas qui proposent les coups de cœur d'atmosphère tels que le Palace à Château-Gontier, le cinéma Yves Robert à Évron, le cinéma Le Majestic à Ernée ou encore le cinéma de Goron. On vous souhaite une très belle semaine cinématographique et de belles découvertes.
De belles découvertes, évidemment, cinématographiques et pas que. Merci beaucoup, Audrey, d'Atmosphère 53. Et retour des chroniques, un jour un peu plus normal, hein. C'était un petit peu chamboulé cette semaine avec l'émission spéciale. Retour de la chronique, donc, mardi prochain. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À suivre, à l'antenne, à 20h, il y aura Passe-moi le thème, autour ce soir de musique, issue d'albums aux pochettes confectionnées par Storm Thorgerson, un véritable artiste du visuel. Il a signé d'ailleurs presque toutes les pochettes d'albums de Pink Floyd. Et puis ce week-end, samedi à 11h, retrouvez L'Enfant à ses droits, suivi à 17h de Bud Station. Et puis dimanche à 21h, ne manquez pas L'Ennui et au lit, le retour de l'émission évidemment qui a commencé avec cette radio. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à lundi.